Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner jusqu'à 14h pour une heure d'émission en français. Au menu aujourd'hui, comme tous les jeudis, on va faire le point avec Nicolas Perpich sur l'actualité économique australienne. Jean-Noël Ducasse, lui, nous fera un point complet sur les sports et il s'est passé beaucoup de choses ces dernières 24 heures. Et puis, dans le cadre de la semaine NIDOC qui se poursuit, on va continuer notre exploration des artistes aborigènes avec aujourd'hui une interview du directeur artistique de la compagnie chorégraphique Bangara. Et puis, on discutera aussi avec l'artiste multicarte Travis DeVries. Mais tout de suite, place à l'info, c'est l'heure du journal. Les principales actualités de ce jeudi 8 juillet. En Nouvelle-Galles du Sud, 38 nouveaux cas de Covid ont été recensés alors que hier, les autorités ont annoncé que le confinement en cours à Sydney durerait une semaine supplémentaire jusqu'au 16 juillet. Dans les Caraïbes, à Haïti, le président Juvenel Moïse a été assassiné par un commando armé à son domicile, un acte qui pour l'instant n'a pas été revendiqué. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, un nouveau président vient d'être élu il y a quelques heures seulement, après 5 mois de vacances à la tête du pouvoir à Nouméa. Le nouveau président est un indépendantiste, il s'appelle Louis Mapou. Nouveaux cas de Covid-19 ont donc été recensés aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud. Parmi ces 38 cas, 11 personnes qui n'étaient pas à l'isolement durant la phase infectieuse. Gladys Bérégé-Client a rappelé une fois encore qu'il était essentiel d'éviter les visites chez les amis ou la famille à domicile, le virus se transmettant essentiellement dans des endroits clos.
Please, please, avoid contacts with other households. Please avoid visiting family and friends because you're not allowed to. When we talk about providing care or compassion, we're talking about one person visiting someone who might be isolated, dropping off goods or essential services or providing essential services. We're not talking about visiting extended family members. We're not talking about visiting friends.
Et puis donc, la veille, mercredi, la même Gladys Bérégé-Client a annoncé que le confinement en cours à Sydney allait être prolongé d'une semaine jusqu'au donc le 16 juillet, une décision soutenue par le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt.
We've been working very closely with New South Wales, the Prime Minister, myself, the Chief Medical Officer with our counterparts, and I think they've made the right decision. The Commonwealth Chief Medical Officer, Paul Kelly, has extended our Commonwealth hotspot for another week as well.
Le bilan épidémique est beaucoup moins lourd dans le Queensland, où on a recensé 2 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Et les 2 cas en question sont porteurs du variant Alpha, beaucoup moins contagieux. C'est ce qu'a précisé la médecin en chef de l'État, le docteur Janet Young.
When they went into home quarantine, they tested negative. They've now tested positive, both of them. So we've just gone and done some further work and they've had no public exposure sites. There is no risk there at all. And this is what we always want to see as a cluster evolves.
Et tandis que Sydney pleure, Melbourne rit, puisque dans le Victoria, ça fait maintenant 8 jours d'affilée qu'on n'enregistre aucun nouveau cas de transmission locale, à tel point que les autorités ont annoncé que le port du masque n'allait bientôt plus être obligatoire dans les écoles, ni dans les entreprises où les employés ne sont pas en contact direct avec du public. Le masque, il faudra quand même le garder en revanche dans les commerces, les bars et les restaurants. Ceci étant dit, la capacité d'accueil de ces établissements va être augmentée. Et puis en Australie méridionale, les autorités doivent se réunir aujourd'hui pour décider de rouvrir ou non ses frontières à d'autres États, notamment à l'Australie occidentale, au Queensland, au territoire du Nord, où des cas ont été détectés ces derniers jours, mais où la crise semble résorbée. En revanche, les frontières de l'Australie méridionale devraient rester fermées à ceux qui viennent de Canberra ou de Nouvelle-Galles du Sud. Et puis après, donc, la vaccination obligatoire pour les personnels travaillant en maison de retraite, ça avait été annoncé vendredi dernier par Scott Morrison à l'issue du cabinet national. La vaccination pourrait également devenir obligatoire pour toutes les personnes travaillant avec des personnes handicapées. Ce sujet, il doit être abordé demain lors du prochain cabinet national, autour donc du Premier ministre et les représentants de tous les États et territoires australiens. Cette vaccination obligatoire, elle est recommandée en fait par plusieurs experts sanitaires à un moment où seulement un tiers de ces personnes travaillant avec des personnes handicapées sont actuellement vaccinées. On tombe même à seulement 15% quand on prend en compte ceux qui sont complètement vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les deux doses. Mais pour le leader de l'opposition, Anthony Albanese, c'est moins le fait d'une forme de résistance à la vaccination de la part des personnes travaillant dans ce secteur que l'incapacité pour ces derniers à mettre la main sur des vaccins.
The problem here is they cannot get vaccines. You can't make something when there's no vaccines available.
Sur un tout autre sujet, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud débattra d'ici quelques semaines d'une possible légalisation de l'euthanasie. Cette proposition de loi, elle est portée par le député indépendant de Sydney, Alex Greenwich, qui travaille sur ce texte depuis environ 6 mois. Cette proposition, elle sera rendue publique la semaine prochaine, puis soumise au Parlement au mois d'août. À savoir que ça n'est pas la première fois que les parlementaires de Nouvelle-Galles du Sud se penchent sur la question de l'euthanasie. Une proposition similaire avait été faite en 2017. À ce moment-là, elle avait été rejetée. Haïti sous le choc, le président Jovenel Moïse a été assassiné mardi soir chez lui par un commandant armé. Un meurtre qui pour l'heure n'a pas été revendiqué, mais qui intervient alors que le président Moïse avait nommé quelques jours plus tôt un nouveau premier ministre qui s'appelle Ariel Henry. Et ce président défunt, il devait également organiser très prochainement de nouvelles élections, des élections réclamées à la fois par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi par l'Union européenne, dans un contexte général à Haïti de très grande insécurité, et alors que le président Moïse souffrait d'une impopularité croissante. On écoute les explications de Romain Lemaresquier pour RFI.
Les Haïtiens se sont réveillés ce mercredi en apprenant la mort de leur président Jovenel Moïse. Dans un pays en proie à une très forte insécurité ces derniers mois, la faute entre autres à une guerre de gangs qui a fait de nombreuses victimes et à une hausse vertigineuse des enlèvements, c'est désormais l'inquiétude qui règne en Haïti. Qui dirige le pays? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? La police et l'armée sont-elles à même de rétablir l'ordre? Des élections vont-elles être organisées? Des questions qui restent pour l'instant en suspens. Au niveau du pouvoir, le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui devait quitter son poste ce mercredi suite à la nomination lundi dernier d'Ariel Henry, ne s'est toujours pas prononcé sur la suite des événements. Si l'on s'en tient à la constitution haïtienne suite à la réforme de 2012, si le poste de président de la République devient vacant, c'est le Conseil des ministres qui doit assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Des élections qui auraient dû se tenir selon un décret publié cette semaine le 26 septembre prochain, mais l'annonce de la mort de Jovenel Moïse pourrait bien chambouler cet agenda.
À Genève, où se trouve le siège de l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation estime que le monde se trouve à un moment charnière particulièrement périlleux concernant la pandémie. Le Covid-19, dont le nombre de victimes à travers le monde vient de franchir la barre des 4 millions, est toujours là et toujours dangereux. Michael Ryan, le chef des programmes d'urgence de l'OMS, appelle les États à ne pas lever trop vite les restrictions en place un peu partout, du moins pas tant que la couverture vaccinale aura atteint un niveau beaucoup plus élevé. On l'écoute.
This virus is evolving, this virus is changing, and we need to be very, very careful at this moment so that the gains that have been hard won by the behaviors and action of our population are sustained.
Et l'un des pays justement où le coronavirus fait actuellement des ravages, c'est un pays tout proche de l'Australie, il s'agit de l'Indonésie. Les hôpitaux à Jakarta, comme dans le reste du pays, sont actuellement débordés. Ils sont également confrontés à une véritable pénurie d'oxygène. 1040 personnes sont décédées au cours de la seule journée d'hier. C'est le plus lourd bilan enregistré en Indonésie depuis le début de la pandémie. Et face à l'engorgement et le manque de moyens des hôpitaux, certains habitants malades ne peuvent compter que sur leurs proches pour prendre soin d'eux. Évidemment, pas dans une chambre d'hôpital, mais tout simplement chez eux. C'est ce que fait, comme il le peut, cet Indonésien. Écoutons-le.
We need it because one of our family members is experiencing breathing difficulties and we are running out of oxygen. That's why I have to queue. We need it badly.
L'Afghanistan dans une situation militaire extrêmement délicate alors que les derniers soldats australiens ont plié bagage il y a quelques semaines, que l'armée américaine est également sur le point de partir. La guerre fait rage actuellement avec les talibans qui viennent de remporter une victoire très importante face aux forces gouvernementales. Élément d'explication avec Yelena Tomic de RFI.
Les plus hautes autorités militaires et sécuritaires ont beau vouloir rassurer sur leur capacité à repousser l'ennemi, leurs allégations sont contredites sur le terrain. Chaque jour, les talibans arrivent à conquérir de nouveaux territoires, faisant dire à certains experts que leur retour au pouvoir n'est désormais plus une hypothèse à exclure. Dernière illustration en date, l'assaut majeur opéré ce mercredi par les insurgés contre la capitale provinciale de Baghdi, dans le nord-ouest du pays. Et ce, quelques heures seulement après l'annonce du retrait de l'armée américaine à plus de 90%. Le retrait américain après 20 ans de guerre a débuté en mai, malgré l'inexorable avancée des talibans et le recul des forces afghanes, désormais privées du crucial appui aérien américain. Difficile dans ces conditions pour les forces afghanes de relever un défi de taille, reprendre le contrôle d'une partie des districts, en particulier autour des grandes villes, alors que les insurgés contrôlent déjà près des 3 quart du territoire.
Banni des réseaux sociaux en janvier dernier, l'ancien président américain Donald Trump vient d'annoncer qu'il poursuivait en justice Twitter, Facebook, mais aussi Google, pas seulement d'ailleurs les entreprises, mais aussi les PDG respectifs de ces groupes de la Silicon Valley. Donald Trump, dont les comptes ont donc été fermés au lendemain de l'assaut du Capitole, le 6 janvier dernier, un assaut mené par certains de ses plus fervents supporters, l'ancien président américain prétend avoir été injustement censuré.
We're demanding an end to the shadow banning. A stop to the silencing and a stop to the blacklisting, banishing and canceling that you know so well.
La Nouvelle-Calédonie, qui était sans gouvernement depuis près de 5 mois, vient d'élire un nouveau président. Il s'agit de Louis Mapou, candidat de l'Union nationale pour l'indépendance. Cet homme de 62 ans, qui a également milité dans sa jeunesse avec le FLNKS, est donc le premier président ouvertement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie depuis la signature des accords de Nouméa en 1998. Il s'est exprimé devant la presse peu après son élection. Écoutez-le.
C'est la première fois que le mouvement indépendantiste arrive et comme fait esprit, nous arrivons au moment le plus difficile de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de ces 30 dernières années. On n'a pas jamais été, j'ai envie de dire, pour parler simple, été autant préoccupé et embarrassé par l'enchevêtrement des questions que rencontre la Nouvelle-Calédonie, question sociétale, question économique, question conjoncturelle. Et il se trouve que ça nous tombe dessus.
Voilà, donc c'était Louis Mapou. Il vient d'être élu président de la Nouvelle-Calédonie quelques mois seulement avant le troisième et dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui se déroulera le 4 octobre prochain. On va maintenant faire un petit tour du côté de la France où, après une nette amélioration ces dernières semaines sur le plan sanitaire et la levée toute récente des dernières restrictions à l'approche de l'été, les autorités s'inquiètent désormais d'une possible quatrième vague du coronavirus. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse ces derniers jours et parmi celles-ci, le variant Delta représente désormais 40% des infections, à tel point que le gouvernement envisagerait même de rétablir certaines contraintes, et ce, dès la semaine prochaine. Mais avant d'en arriver là, on fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone avec Nina Droff de RFI.
Les contaminations progressent. Santé publique France décomptait hier 3585 nouveaux cas de Covid-19. C'est 1200 de plus que mardi dernier et le 9e jour de hausse consécutif. Le taux d'incidence nationale, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, grimpe de 23 à 24 et le taux de positivité des tests enregistre également une légère hausse. Alerte notamment à Paris où le taux d'incidence atteint 54, alors que le variant Delta y est désormais majoritaire. Il s'agit de la première métropole à refranchir le seuil d'alerte. En revanche, dans les Landes, où ce variant Delta est présent à 80%, le taux d'incidence se stabilise et repasse à 50. Cette hausse des contaminations, elle est surtout frappante chez les jeunes adultes. D'après les chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence atteint désormais 124 chez les 20-29 ans. Il a presque doublé en une semaine. Point positif cependant, les rendez-vous pour la vaccination repartent à la hausse après 2 semaines de baisse, une vaccination massive étant le seul moyen d'échapper à une 4e vague selon les autorités.
Et maintenant, un coup d'œil rapide à la météo du jour en Australie. 19 degrés à Perth où il y aura quelques averses, 16 degrés à Adelaide, aujourd'hui sous les nuages. En revanche, grand soleil à Melbourne où le thermomètre affiche 13 degrés, 17 degrés à Sydney, 20 degrés et quelques averses à Brisbane, 27 à Cairns où il y aura des averses quasiment toute la journée, et puis 31 degrés à Darwin où le ciel aujourd'hui est tout bleu. On vient d'écouter un extrait du morceau Kabylifornie, un morceau interprété par le groupe Bagarre. Et de Bagarre, il en est également question dans le peloton du Tour de France qui se joue actuellement. On en parle tout de suite dans le magazine des sports. Jean-Noël Ducasse, qui l'a concocté, va aussi revenir sur la finale désormais connue de l'Euro de football et enfin sur les derniers matchs de tennis qui se sont joués à Wimbledon. Allez, c'est parti.
Tout d'abord, le Tour de France, la 11e étape hier, le double Ventoux remporté par le Belge Wout van Aert. Tadej Pogacar garde le maillot jaune. Éric Chorin, Radio France Internationale.
Pour que tout le monde soit servi, devant tout va le mieux qu'un. Julien Alaphilippe s'est offert le premier passage au sommet en tête. Mais le Français, grand animateur de la journée, n'a rien pu faire quand Wout van Aert a lâché tous ses compagnons d'échappée dans la deuxième ascension, la plus dure des deux, classée hors catégorie. Seul à 11 km du sommet, le Belge a basculé au sommet du Mont Chauve pour creuser encore l'écart dans la descente sur Malocène, malgré les efforts conjugués des deux coureurs de l'équipe Trek, Kenny Elliston des Bauke Mollema, deuxième du sprint de Valence, derrière Cavendish. La veille, van Aert a encore démontré qu'il était un attaquant tout terrain pour décrocher sa 4e victoire d'étape sur le Tour en 3 ans, la première cette année pour celui qui est libéré des contraintes du classement général depuis qu'il a cédé sa 2e place dans l'étape de Tignes. Et pendant ce temps, encore une première cette année, Tadej Pogacar, lui, n'a pas pu suivre un coureur qu'il attaquait, une petite banderie plantée dans le Ventoux par le coéquipier de Van Aert, Jonas Vingegaard. Le jeune Danois avait près de 30 secondes d'avance au sommet qu'il n'a pas réussi à conserver. Pogacar, Rigoberto Urán et Richard Carapaz le reprenant dans la descente. On verra dans les Pyrénées si ce n'était qu'une alerte.
On écoute maintenant Benoît Cosnefroy, le Français, qui escaladait pour la première fois le Mont Ventoux.
Ouais, pas facile. J'ai beaucoup bataillé pour prendre l'échappée. Et puis au final, je pensais que ça allait sortir un peu plus tôt que ça. Et bon, c'est pas sorti. Et puis après, ça a lancé des coups sur le plat. Et là, j'ai été déjà physiquement bien atteint. Et bon, je me suis dit, pour l'équipe, je vais essayer d'en suivre. Et puis au final, on est revenu devant avec Greg, mais moi, je n'ai jamais récupéré de cet effort. Et j'ai lâché le premier de l'échapper, du coup. Et après, ma journée a été difficile, mais bon, j'ai pu remonter, faire un peu de travail pour les gars dans le peloton. Et puis cette double ascension, il y avait une fois de trop pour moi. Une m'aurait suffi. Mais ouais, franchement, c'est des journées hyper dures. Et ouais, ça les étrace, je crois.
Mardi, Mark Cavendish a gagné la 10e étape, sa 3e de ce tour et le 33e en tout à une longueur du record de Eddy Merckx. On passe au foot maintenant, l'Euro, ce sera une finale Italie contre l'Angleterre après la victoire des Anglais 2-1 après prolongation contre les Danois, la première finale d'un Euro pour l'Angleterre. Analyse de Radio Foot, émission menée par Annie Gasnier.
Avec une équipe danoise qui a surpris, parce que moi je les attendais pas à ce niveau, très franchement. Je trouve qu'ils ont piégé les Anglais. Ils ont eu des remontées de balles très organisées. Et pour moi, là où le match a basculé, c'est avec les bancs. Le banc danois est court, il y a eu 5 changements.
Exactement.
Et ça a déséquilibré l'équipe danoise, alors que l'Angleterre se nourrit, se renforce de ses remplaçants. Ouais, même si c'est Sterling et Kane qui sont décisifs.
Voilà. Mais voilà. On ne fait pas jouer Foden pendant presque toute la compétition, mais on le sort vraiment au bon moment.
C'est un avantage incroyable. Quand Grealish rentre, il y a des frissons, des occasions. Et le Danemark, à la fin, était fatigué. Il n'y avait plus de remontée de balle. Le Danemark a beaucoup subi à la fin. Donc, quand vous subissez, vous vous mettez en situation d'avoir des faits de jeu compliqués dans votre propre surface. Voilà.
Exactement. Nabil.
Non, mais ce soir, la meilleure équipe a gagné. Moi, je suis d'accord. Ils mettent de l'intensité. Physiquement, c'est des buffles. Ils sont assez incroyables. Et, ils ont une profondeur de banc incroyable. Ils ont un effectif qu'on croyait au départ un peu déséquilibré avec trop de pouvoir offensif et des joueurs peut-être difficiles à gérer. Mais aujourd'hui, on ne parle plus du management de Southgate avec des garçons comme Sancho ou Rashford qui sont sur le banc. Il y a de la créativité. Il y a du jeu. Il y a des garçons qui sont montés en puissance. Harry Kane, ce soir, a été absolument fantastique. Et moi, ce que j'aime
Sterling
également,
aussi,
et Hugo, peut-être... pourra nous le confirmer, c'est la qualité des côtés et notamment la qualité des centres. On sent que c'est quelque chose qui est travaillé. Et d'ailleurs, du côté de l'équipe de France, on devrait s'en inspirer.
Revenons à la première demi-finale de mardi avec l'Espagne éliminée au tir au but par l'Italie. Christophe Diremzian, RFI.
La renaissance italienne avec sur le terrain des maîtres du réalisme presque au sommet de leur art à Wembley. 9 ans après la finale ratée de l'Euro face aux Espagnols alors tout puissants et 3 ans après son absence du mondial russe, la Squadra Azzurra est proche d'avoir l'Europe du football à sa botte. Mais que ce fut long et stressant face aux Espagnols, un partout à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation et une séance de tirs au but remportée 4-2 grâce d'abord à un arrêt du gardien Gianluigi Donnarumma sur la tentative d'Alvaro Morata, puis la frappe décisive de Jorginho pour libérer les coéquipiers de l'attaquant Federico Chiesa, buteur durant le match et qui a eu du mal à réaliser.
I cannot describe my emotion by words.
Je n'ai pas les mots pour décrire mon émotion. Match très difficile. L'Espagne a été fantastique. Elle a des joueurs de classe mondiale à tous les postes. Ils ont été géniaux, mais nous sommes qualifiés. Quand Locatelli a raté le premier tir au but, tout le monde est resté calme. On s'est dit, on peut le faire, on peut le faire. Et nous voilà en finale. Je ne sais pas quoi dire. On va revenir à Wembley dimanche et on verra.
On the 11th of July and we'll see.
On passe au tennis, au Wimbledon, quart de finale, messieurs, hier, et on connaît les demi-finalistes. Djokovic jouera contre Shapovalov, le Canadien, qui a battu Khachanov, le Russe, en 5 manches, 6-4, dans le 5e set. Berrettini, l'Italien, jouera contre Urquaz, le Polonais, qui a éliminé Federer, le Suisse, en 3 manches. Chez les dames, les demi-finales de ce jeudi, Ash Barty, l'Australienne, contre Angélique Kerber, l'Allemande. Pliskova, la Tchèque, jouera contre Sabalenka, la Biélorusse. Mardi, Ash Barty, l'Australienne, a éliminé sa compatriote Alia Tomljanovic, 6-1, 6-3. Écoutez Ash Barty qui lui rend hommage.
Isla is an incredible competitor. I've practiced with her a lot. I've played with her. Obviously, we're Fed Cup teammates, and she was always going to bring out the very best in me. I think I had to play my absolute best to be able to compete with her. She's had an incredible fortnight, and I think all Aussies back home are bloody proud of her, and it was really nice to share the court with her today.
On passe aux JO de Tokyo qui débuteront le 23 juillet prochain et la star du basketball australien Patty Mills et la nageuse Kate Campbell porteront le drapeau australien pour la cérémonie d'ouverture. Patty Mills de la communauté aborigène partage cet honneur.
It's such an honor and a massive privilege for me as a proud Guggera, Nagyagal and Dawarab Meriam man. This is really special and just thankful for all the support up until this moment, but it's something that I won't be able to put into words what I'm feeling right now.
Et puis c'est la judokate Clarisse Agbenenyou et Samir Ait Saïd qui ont été élus porte-drapeau de l'équipe de France pour ces JO de Tokyo et pour les Jeux paralympiques. Sandrine Martinet et Stéphane Houdet ont été désignés par un vote du public. Et puis à la veille de ces JO de Tokyo, en athlétisme, le record africain du 100 mètres a été battu par un Sud-Africain, Akani Simbine Martinguez, RFI.
Il peut lever l'index et afficher un franc sourire sous le soleil hongrois. En soufflant le record d'Afrique d'un petit centième, Akani Simbine a effacé des tablettes le Nigérian Oluzoji Adetokunbo Fasuba, temps de référence continentale depuis 15 ans. En tête de la ligne droite de bout en bout à Székesfehérvár, ville des rois de Hongrie, le Sud-Africain a parfaitement cassé le buste sur la ligne d'arrivée pour devenir le nouveau roi d'Afrique, loin devant la meute des sprinteurs américains alignés face à lui, comme Michael Rogers ou Justin Gatlin. À 27 ans, le natif de Kempton Park, près de Johannesburg, monte en puissance. Champion d'Afrique du Sud au mois d'avril à Pretoria, il avait déjà cru faire tomber le record d'Afrique en réalisant 9 secondes 82, un chrono finalement non homologué à cause d'un vent trop favorable, mais cette fois-ci, c'est donc la bonne, 9 secondes 84, record d'Afrique et deuxième meilleure performance mondiale de l'année. De quoi placer Akani Simbine en sérieux candidat au podium olympique, lui qui collectionne les places d'honneur jusqu'ici, cinquième aux Jeux de Rio en 2016, quatrième aux Mondiaux de Doha en 2019. Il vise enfin une médaille à Tokyo. Sur la course individuelle et sur le relais 4x100 mètres, le sprint sud-africain est prêt à lâcher les chevaux.
Un mot de rugby avec le match d'ouverture de la tournée du 15 de France en Australie et à Brisbane hier, la défaite des Bleus face aux Wallabies. Les Wallabies qui gagnent dans les dernières secondes du match 23 à 21. Les Français n'ont jamais gagné en Australie depuis 1990. Prochain match le 13 juillet au AAMI Park de Melbourne et le 17 juillet au Suncorp Stadium de Brisbane, comme hier. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Et là, on vient d'écouter l'un des morceaux les plus connus du groupe français Phoenix. Ce morceau, il s'appelle J-Boy. Ici à SBS, notre J-Boy à nous, c'est Jean-Noël Ducasse. On le retrouve tout de suite avec Nicolas Perpich pour faire un point complet sur l'actualité économique en Australie.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
La Banque centrale recule légèrement sur son plan de relance économique.
Oui, assez légèrement, mais quand même, c'est plutôt important. La Banque avait introduit certaines mesures visant à stimuler l'économie. Et là, ce qu'on voit, c'est que la Banque a décidé de réduire les achats d'obligations d'État de 5 milliards de dollars toutes les semaines jusqu'à 4 milliards de dollars chaque semaine. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était une mesure qui aidait à garder les taux d'intérêt pour les hypothèques et pour emprunter de l'argent très bas. Donc ça a changé. Ça veut dire que légèrement, ça va devenir un peu plus difficile pour emprunter de l'argent, mais pas énormément. Mais ça montre que la banque change son approche, change la façon dont elle voit l'économie. Et à vrai dire, cette décision, c'était quand même une surprise. Mais le gouverneur de la Banque centrale, pendant une rare conférence de presse, il a dit qu'en fait, maintenant, c'était plus vraiment une question de reprise pour l'économie, mais plutôt une question d'expansion. Voilà, en même temps, ils ont laissé le taux d'intérêt à 0,1%, donc le taux très très bas, où c'était depuis le mois de novembre, de l'année dernière. Donc, pas de changement là. Et en fait, personne ne s'attendait vraiment à que ça change. Il dit que vraiment, ça va continuer comme ça. Et le but de la Banque centrale est d'assurer que le taux chômage reste très bas, vraiment à un niveau de plein emploi, et aussi que le taux d'inflation atteint entre 2 et 3%. Et comme on a souvent dit, on est loin de ça. Ça va pas être à ce niveau-là avant 2024. Donc, Philip Lowe dit que c'est à ce moment-là que le taux d'intérêt pourrait finalement changer.
Et puis, les grandes entreprises veulent aider le gouvernement dans la campagne de vaccination contre le Covid.
Voilà. Donc, les grandes compagnies ici en Australie, comme Woolworths, Coles, Wesfarmers, la Commonwealth Bank, Westpac, ANZ, NAB, Qantas, Virgin, tout ça, et d'autres groupes de business se sont rencontrés cette semaine avec le trésorier Josh Frydenberg et le chef du programme de vaccination, le général John Froon, et ils se sont rencontrés pour discuter comment les business pourraient aider à accélérer les vaccinations. Il y a eu énormément de débats sur la lenteur des vaccinations ici en Australie. Ils allaient voir comment, quel genre de soutien les business pourraient donner pour assurer que plus de gens sont vaccinés plus rapidement, en particulier après à peu près septembre-octobre cette année, quand on aura plus de Pfizer et Moderna va commencer aussi. Et une idée qu'ils ont, c'est que les gens pourraient se faire vacciner au travail, comme on fait parfois pour d'autres formes de vaccination. Et donc, il y a le Australian Industry Group, Innes Willock, c'est le chef. Lui, il dit que vraiment, pour le monde des affaires, il voit que c'est comme ça qu'on va pouvoir ouvrir les frontières plus rapidement. C'est avec avoir plus de gens vaccinés, évidemment. Donc, ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour accélérer ça, pour aider ça. Et voilà, ils disent que peut-être ce qu'ils pourraient faire, c'est bien sûr travailler d'une façon très étroite avec les médecins, avec les infirmières, avec le département de santé, peut-être dans un ils pourraient aider avec l'administration comme ça. Ça c'est quelque chose que le département de santé n'a pas besoin de s'en occuper, et ça laisse plus de temps pour les médecins, pour les infirmières, pour donner des vaccins. Et si on pourrait donner le feu vert pour avoir ça au travail aussi, ça pourrait vraiment accélérer les choses pour que à Noël on arrive les cibles, les buts d'avoir au moins offert la vaccination à tout le monde ici en Australie, et à essayer d'atteindre des niveaux de vaccination de 60, 70, 80%, où vraiment on aura besoin de moins de confinements, parce que bien sûr, les business n'aiment pas les confinements, ça tape très fort, les petits business en particulier souffrent énormément. Donc voilà leur but, d'avoir moins de confinements et d'ouvrir les frontières.
Voilà, merci Nicolas pour cette analyse. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/French.
J'ai des comportements bas, ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai des comportements bas, ouais. Oh là là, non. Yeah. Oh, oh. Comportement. Oh non, non.
Ce morceau, il s'appelle Comportement et il est interprété par Aya Nakamura. Allez, maintenant, on va retrouver Bertrand Tungandamé. Il a interviewé en anglais l'artiste aborigène Travis DeVries.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
My guest is Camilla Roy Darug artist Travis DeVries, finalist of the 2020 KWM Contemporary First Nations Art Awards, currently on display in Melbourne. Welcome to SBS Radio, Travis.
Thanks, Bertrand.
Your artwork is part of an exhibition that's launching on the 6th of July, right in the middle of NIDOC Week 2021. Your reflection on having your artwork displayed at such an important time of the year?
I mean, it makes complete sense to have the exhibition open now. The exhibition got postponed last year. It was supposed to be in 2020, and it got postponed to this year. And so it's a really nice bit of kind of cultural synergy to have this exhibition of First Nations artworks for the King William Mallison Art Prize to open on NAIDOC Week this year.
Yeah,
this is its second iteration, and I was a finalist last time as well. All First Nations artworks from around Australia. These are the finalists from last year's art prize.
Your entry into this award last year were pieces, self-portraits. Tell us more about these pieces.
My piece, Belonging, is all about self-actualization. And so it's a series of seven artworks or seven self-portraits of the same photograph that I took in 2019 that I then painted over the top of with oil paint and ochre and pencil and ink and other bits and pieces of stuff. Each one kind of radiates out from this centerpiece, and the centerpiece is like me as a like grounded in culture. And then each other one radiates out from that in a different way. And one of them depicts as if I was a race trader or a cultural trader, and wearing the copper breastplates that were given to tribes people who were the good ones by early colonists, which would say like king or chief on it. So it was like the colonists would come through and name their chieftain who they would do business with. So one of the paintings embodies that. Another one is me embodying a superhero, or another one is embodying a like Bayami godlike character. The plan with this work like is to continue it, and I'm going to do self-portraits in the same style every year.
Now, exhibition organizers KWM said this exhibition is not just about displaying contemporary First Nations art, it's also about promoting reconciliation.
That's a great thing. King Wood and Mallison is a white fellow organization. Like, that's their responsibility, is to strive for reconciliation. That's not necessarily our job as Aboriginal people. It's their job. It's our job to point out where they've gone wrong.
As you mentioned, the awards took place last year, but because of the circumstances that we all know, the winners were not announced, and they just found out right in the middle of NIDOC Week this year. Can you tell us a word or two about the other finalists and maybe the winners?
The exhibition couldn't go ahead last year because of COVID, obviously, and so it got pushed back to this year. But they still announced the winner rather than like leaving that open for another year and wait for the final to hear about who had won, because that would have been a horrible wait.
Yeah.
The winner was Michelle Woody,
yeah,
from the Tiwi Islands. So quite a beautiful work. It's called Nia Murakupupani.
Yeah. Now, besides your work in 2020, you also a trailblazer in promoting First Nations presence on the World Wide Web, creating Awesome Black, a platform for First Nations digital-based creatives and podcasters and gamers.
Yeah, well, so I run the non-for-profit Awesome Black, which is a podcasting and online digital content or artistic creative content online, which includes for me like gaming. And it's all about a space where like we do foster this like culture online. And I think like the world is, we've moved that way. Like, there's so many black fellas inhabiting the online space, and Awesome Black gives that space to kind of, for us to play. So it's very exciting. I run a couple of podcasts myself.
And have you seen any difference, difference in people's reaction because of COVID? Everyone is now online. Everyone is stuck on their computers. Have you seen any change in people's behavior and attitudes? And
I think definitely people have changed the way they are online, and people are looking to make their online space as similar to their offline, in a way to their offline space, and make it connected communities and safe communities online, and also the practice of digital sovereignty from a blackfella perspective. There's been a lot of conversations around how we do that from various sides of the industry, particularly from the arts. Yeah, it's kind of nice that Awesome Black is a forerunner in that space. We were doing this before COVID hit. You know, it was to already be in that space before people started flocking there, trying to do things all of a sudden.
And where to from now?
That's a good question. I mean, I personally feel we need to figure out what the crux between online and offline and being on country is. I think it's an important balance that we need to create and really be evaluating our time and energy and where we spend it. I'm currently working on the podcast Fear of a Black Planet, which is the improvisation fictional narrative about a paramilitary Aboriginal group that's planning on taking back Australia. And for me, I'm trying to explore some content in there that really hits home for what we should actually be doing. It's comedy and it's kind of a bit dark, but it's also, I guess, for me, it's inspirational and something to strive towards.
I can't help but come back to the NIDO question. When you say about retaking the country, the theme of this year is about healing country, and retaking country would involve also healing country. It's not just about taking it.
Absolutely. But yeah, I mean, we're sitting here on country and we don't own our space. We don't own where we live. It's Queensland. It's owned by a foreign government, or even the Australian government. We sit on our country. That's our traditional land. We don't have this control over it. How can we heal country until we have that?
Before I let you go, anything we haven't covered you would like to add?
No, I wanted to just pass on my congratulations to the other finalists. They're an amazing bunch of people, amazing bunch of artists with incredible artwork, and it is an absolute honor to have my work alongside theirs in this exhibition.
Thank you so much for taking the time to talk to us today, Travis.
No, thank you, Bertrand. Really appreciate it.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Et c'était Serge Gainsbourg et cette chanson qui date du tout début de sa carrière et qui s'intitule Intoxicated Man. Allez, il est 13h53, vous êtes sur SBS, le programme en français. On arrive dans la dernière partie de notre émission et pour terminer, nous vous proposons d'écouter une interview de Stephen Page, le directeur artistique de la compagnie chorégraphique Bangara, une compagnie aborigène qui produit des spectacles absolument magnifiques. Leur inspiration, ils la puisent dans les histoires transmises de génération en génération au sein des communautés aborigènes, mais aussi en retournant, comme on dit en anglais, « to country ». C'est ce que Stephen Page a raconté à Jean-Noël Ducasse.
Vous voulez rester en contact avec nous en dehors des heures de diffusion ? Dans ce cas, rendez-vous sans tarder sur Facebook ou Twitter. Vous y trouverez des informations insolites, des photos de notre équipe en studio ou en action, des impressions à chaud de nos reporters partis sur le terrain et bien plus encore. Deux adresses à mémoriser, facebook.com/sbsfrench et sur Twitter, on est @sbsfrench. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. À bientôt!
We've got the great pleasure of welcoming on the French language program, Stephen Page of the Bangarra Dance Theatre. Welcome.
Thank you.
And what are the sources of inspiration? Every year you come up with a new production. Mm-hmm. What do you do? Do you go back to country, to the desert, to the regional communities? How does it happen for you?
We're fortunate to go back to country. And when we go back to country, it could be any of the communities that we have strong relationships. One of our strongest relationships is with Northeast Arnhem Land and the many different families there that have entrusted Bangarra with their traditional songs and dances and stories that have inspired our contemporary works. So I suppose going back to on country and living traditional culture, and even though they have other Western influences filtering through, they're always very strong about maintaining their cultural knowledge, their language and their songs and dances. So really for us, it's really about our own sort of personal, cultural, professional development. And somehow that just starts the sort of discussion about, you know, what we get out of that experience. And then when we come back to the city, to the chaos in the city, we try to all come together and somehow talk about, you know, the bittersweet situations with community life compared to our urban life and what we hunger for in culture. Because really we are predominantly an urban perspective because we don't live 52 weeks of the year in a rural community. And if we did, I don't know how different our attitudes would be. I mean, we do only go up there for 2 weeks and get invited into community, but, you know, it's different climate, it's different landscape. I mean, Australia has 1,000 or more different characters of landscape, just like the 1,000 or more different dialects of language, you know, like there's such a richness to variations of land in Australia. And Northeast Arnhem Land is, you know, it's challenging landscape, you know, it gets through the wet and dry seasons, and it's just interesting watching the people live on the land and how they work with the land and time. And that was something that I notice all the time when I go home, or what I call home. But when I get back to the city, you know, you're just in this hustle and bustle of energy, and there's much more of a system going on that you have to apply yourself to.
Because you grew up in Queensland, didn't you?
Yeah, my mum and dad. Yeah, my father's Malanjali and my mother's Noonuckle. So, but you know, we were brought up. When I was young, we shifted to the city. So, but most of my brothers and sisters were brought up in country.
You've been to France, obviously, and maybe other French-speaking countries. What has been the reaction to the Bangarra Dance Theatre?
Oh, look, good reception. I just think they're always fascinated and I think that sort of cultural similarity in storytelling and art, and I think they're quite interested about the evolution of Indigenous art and how it progresses through dance theatre. Early in the mid-90s, we were in French-speaking Noumea, and we've been through to Paris. We've played at the Châtelet when we took with collaboration with Bangarra with the Australian Ballet.
Thank you very much for coming onto the French language program.
Merci.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce classique du Zouk Love, le morceau Flamme du chanteur dénommé Sly. Nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission en direct. Mais bien sûr, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. SBS French, c'est la chaîne à laquelle il faut vous abonner pour nous écouter sur votre plateforme de streaming audio préférée. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.